RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Christophe Drouet.
L'After avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Bruno Satin. Et il nous a rejoint, c'est Yacine Amédée.
Ahmed.
J'ai répété tout l'après-midi.
Il n'est pas brésilien.
Ça se prononce normalement.
Il a à peu près foiré tous ses lancements. Il devait être
ce soir.
Attendez, pas du tout. En plus, souvent, vous rentrez dans mes lancements, donc forcément, je bafouille un peu. Yacine Amédée.
Ouais, c'est ça. Bonsoir.
Salut Yacine. Très heureux de te recevoir. Merci. Éducateur, diplômé, formateur et entraîneur de jeunes joueurs. Dans quelques instants, nous allons parler avec toi de la formation des entraîneurs français, des jeunes entraîneurs aussi, et les difficultés pour avoir le diplôme. Tu as des choses à nous dire. D'ailleurs, nous serons avec un ami de l'After qui dirige une équipe au Congo et qui nous parlera aussi de ces difficultés. Appelez-nous au 3216 pour participer à nos débats. Nous allons parler du mercato dans quelques instants. Il y aura la formation, ensuite des jeunes entraîneurs. Et puis, je le disais, à 23h45, 5 t-shirts de l'After à gagner. Ça va être magnifique. Pierre Ducrot, vous ne le voyez pas, mais est en train de manger.
Les macroutes.
Les Yacine qui sont excellents aussi. Ouais. Franchement, tu veux pas goûter.
Je sais, tu m'en as proposé un, mais si je bafouille, alors avec un macroute, ça va être.
Ça fera un alibi.
Au moins, tu bafouilleras pour quelque chose de bon.
Ça fera un alibi. Bravo, Bruno.
Moi, je
ne pas
qu'on laisse le tupperware pendant l'émission, là. Ouais. Ça fait un peu famille.
Et celui qui répondra mal au quiz devra manger un macroute tout de suite.
Oui, et parler dans la foulée. Ça fait 30 ans que je fais de la télé. J'ai jamais vu un plateau où on avait des dans une barquette comme ça, au milieu d'un plateau.
C'est l'After, c'est différent.
Oui, c'est l'After, bien sûr.
Bien sûr, c'est différent. Et j'aime cette différence.
C'est la famille.
Merci beaucoup. Yacine, je t'appellerai Yacine.
Oui, pas de problème.
Parce que sinon, c'est encore de me tromper. Bon, parlons du mercato, un petit peu. Le mercato qui s'est ouvert hier.
Bruno, quand même.
Bruno,
tu sais que ça fait rêver les gens. Tu sais que t'es là pour faire rêver les gens.
Écoutez les gars, on fait ce qu'on peut. Attends.
T'imagines que le moindre mot que tu vas dire sur ce qui peut se passer à Marseille, à Paris ou à Lyon, et demain c'est la joie, ou la paix, le réveil.
Écoutez les gars,
c'est une nuit qui se passe bien.
Non, vous n'avez pas besoin de nous, vous avez deux snipers dans la maison, à Momo, Boissy.
C'est vrai.
Et puis là,
il est parti en Russie.
Il est parti en Russie.
Il est bien énervé, celui-là, là, il nous a...
Ah, Loïc, ils sont
énervés. Bah non, mais bon, si tu veux.
C'est le Nokia qui a sonné
le problème, c'est qu'ils veulent toujours aller plus vite que la musique, dont on le voit bien sur le dossier Fekir. C'est-à-dire qu'il faut être toujours le premier à dire ça y est, c'est fait, il signe, il fait la visite, c'est bouclé, puis il n'y a rien.
Comment tu vois le truc, toi, alors, le fait que ça ne se fasse pas alors que visite médicale il y a eu?
Ah ben c'est parce qu'il y a eu visite médicale.
Sans doute c'est lié à quelque chose. Enfin.
Mais qu'est-ce qui a pu ressortir de la visite médicale?
Bah qu'il y a sûrement une arthrose précoce peut-être.
Problème et de cartilage, c'est ça?
Par rapport au prix que ça coûte, il y a une hésitation quoi.
Ah mais alors Bruno, alors moi, juste par rapport aux infos qu'on a eues, alors est-ce qu'elles sont vraies ou pas vraies, ça c'est autre chose, mais. Si un club qui fait une visite médicale, il y a un problème effectivement d'arthrose, de cartilage, qui supporterait pas l'intensité maintenant de grosses saisons, etc. Tu proposes toujours de l'acheter 10 millions de moins le joueur? Ou tu te retires complètement?
Ah non, mais maintenant le club dit.
Parce que ça a été une proposition inférieure à ce qui était fait préalablement.
Selon nos informations, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu visite médicale. Après analyse de la visite médicale, les dirigeants de Liverpool n'étaient pas totalement convaincus. Ils ne se sont pas retirés du dossier. Mais selon nos informations, ils ont tenté de renégocier le montant du transfert.
Ce que vous mesurez pas, c'est effectivement la puissance des staffs médicaux, pardon, et des médecins de club. Ils ont vraiment, et naturellement, avec les montants que ça engage, on est obligé d'écouter un peu ce qu'ils disent, parce qu'il peut y avoir des catastrophes industrielles. Oui. Donc, ce que je pense, c'est qu'ils ont transformé une partie importante de la somme qu'ils étaient prêts à mettre de fixe en variable, et ça naturellement n'a pas plu à Jean-Michel Aulas, certainement.
J'ai vu qu'un journaliste proche de Fekir annonçait que le transfert se ferait de toute façon.
Ah, c'est possible, mais à Liverpool ou ailleurs?
Moi, ah oui, voilà, c'est ça.
J'ai pas d'infos, moi.
Par contre, on peut être sûr que Fekir va pas rester à Lyon.
C'est un ancien collègue à toi qui dit
tu vois, manifestement.
Manifestement, ce n'est pas acté, quoi.
C'est compliqué.
je sais qu'il est proche du joueur, il dit il jouera de toute façon à Liverpool, mais c'est quand même... Enfin, Lyon, dans ce cas-là, va passer pour quoi ? Avoir fait déjà deux communiqués, il reste avec nous, machin, c'est de la
communication. C'est de la négo, Daniel, c'est de la négo.
Oui, ils ne peuvent pas dire aujourd'hui, le joueur est là, on est coincé.
Jean-Michel Aulas, en la matière, il faut quand même lui donner un certain crédit. Il a pas l'habitude de brader ses joueurs. Même quand il en a qui veut plus, il arrive à récupérer des ronds dessus. Donc, si tu veux, cette partie-là, il
maîtrise. C'est de la com.
C'est possible. Donc, si tu
veux. C'est pour ça que je te dis que moi, je pense que Fekir ne restera pas à Lyon, quoi qu'il arrive, qu'il aille à Liverpool ou ailleurs.
Non, son départ était acté.
Voilà. Et puis, lui, psychologiquement, tu le vois,
Rosky.
On parle de 65 millions d'euros, on parlait de entre 5 à 10 millions de bonus.
5 millions de pertes, ça va. Ils s'en tirent bien, c'est
même
ça.
Même 10. La deuxième offre, c'était 55,
je
crois.
Tout ça, c'est des spéculations, faut voir les papiers, et puis faut voir ce qu'ils proposent en fixe, en variable, à quoi sont liées les variables.
Et c'est pour ça que je te dis, quand tu parles de la puissance, enfin en tout cas de la compétence des staffs médicaux maintenant, moi je te rejoins entièrement là-dessus. Je pense que si un staff médical, et notamment celui d'une grande équipe comme Liverpool, met le veto, tu ne fais pas une proposition de 10 millions moins cher, tu te retires.
Bastard. Non, mais si tu veux.
Donc il y a autre chose.
Il y a une différence, effectivement, sur des problèmes, par exemple, d'usure, d'arthrose précoce ou de choses comme ça, avec des fois des problèmes d'ordre cardiaque, où là, le club dit on fait pas.
Non.
J'ai eu le cas l'année dernière avec un joueur qui est allé à la Roma, la Chic, où la Juventus a dit non, nous, aujourd'hui, on fait pas. Donc,
c'est vrai, c'est toi qui gère pas de chèque.
Bon, c'est là un agent de chèque, mais c'est un ami, quoi. Donc, je lui donne un petit coup de main.
Ouais.
Mais là, c'est totalement différent.
C'était pas une chèque, là.
Donc, il y a une estimation du risque. Et puis, effectivement, du fait que peut-être qu'il sera pas à 100%, ou peut-être qu'il peut avoir des risques de blessures plus importants, ou un rendement.
Oui, on peut supporter l'intensité, effectivement, d'une grosse saison, d'enchaînement de matchs, etc., quoi. Donc, ça vaut un peu moins cher, ouais. J'ai du mal à y croire, ça. J'ai du mal à y croire.
Bon, en tout cas, on suivra évidemment attentivement ce dossier. On sait que ça...
Encore du mercato, là, Bruno, là.
Oui, c'est vrai qu'on a envie... Moi, j'ai quelques informations
Monaco
à vous donner, mais j'ai envie d'en...
Monaco, ils bougent dans tous les sens, ça rentre, ça sort,
C'est-à-dire parce qu'à part Grand-Cirque, ça en est rentré, là.
Non, mais...
Sans faire offense à personne, ça fait pas non plus rêver à mort, quoi.
Non, maintenant, un transfert à 3 millions, on s'en fout.
Ah ouais, non, à 3 millions, c'est un
problème. C'est à peu près le prix de Thomas Lemar, et maintenant, il en vaut 90.
Ils ont acheté 4 millions, Lemar, faut s'en souvenir. Donc, ça faisait pas rêver personne, et puis.
C'est vrai, t'as raison.
Moi, je plaisantais. C'était ironique, mais c'est un peu malheureusement, c'est un peu devenu la réalité,
Non, mais
si ça coûte plus au moins 50 millions,
ils ont fait un truc.
Oui, pour l'instant, plus en sortie, puisque Fabinho, lui, il est déjà parti. Et il est acté que Lemar et Sidibé partiront, quoi. Donc, le club s'attache à...
Mais on sait pas où il y avait des début de piste pour ces deux joueurs.
Sidibé est parti en Russie.
Oui, il a
on sait que pour Thomas Lemar,
si tu vas par là.
C'est la première ligue.
Oui, c'est vrai que j'aurais pu le...
C'est plutôt l'Espagne, je pense, mais...
Pour Thomas Lemar?
Ouais, je pense que ça sera soit l'Atlético, soit le Barça.
Non, c'est ça. C'est la première ligue. Non, c'est plutôt l'Espagne.
C'est pas un début d'info, mais on sait tous qu'en septembre, en tout cas, le dernier jour du mercato, l'année dernière.
Oui, Arsenal s'était agité.
Arsenal, Liverpool aussi, et on reparlait de Liverpool au mois d'avril, au mois de mai.
9 mois sans le
marché. Non, mais même, il y a deux mois.
Il se passe tellement de choses.
Il y a deux mois, on parlait encore, et même encore la semaine dernière, on parlait encore de Liverpool.
Deux mois, c'est tellement.
Oui, mais est-ce qu'il a pris un style qui vous semble un peu plus collé à la Liga espagnole?
Non,
je
ne
sais pas, je dis ça, je dis rien, mais.
Oui, enfin après, tout n'est pas une affaire de style, hein.
Oui, mais si, parce que quand tu vois ses saisons en Don't See, ou quand il est dans un trou physique, il sert plus du tout à rien. Effectivement, je suis d'accord avec
vous,
mais
des fois, il y a des offres qui viennent de pays, le mec il va quand même si ça correspond pas à son style.
Oui, ça arrive. Voilà. Mais pour lui, effectivement, moi je le vois plus aussi dans un championnat comme la Liga que la Première Ligue, ouais, carrément.
Donc Monaco cherche à remplacer ces trois joueurs, en tout cas Fabinho.
Il y en a certains où ils ont déjà des gens, je veux dire en l'occurrence pour Sidibé, ils ont Almami Touré qui pourra bien faire le job, par exemple. Donc, mais ils travaillent sur un certain nombre de choses. Ouais.
Concernant le Paris Saint-Germain, nous disais juste le Paris Saint-Germain. On parlera de Marseille tout à l'heure parce que évidemment le mercato du PSG, c'est
on
surtout
fait dans là. On fait dans l'ordre du classement.
Oui, exactement. Bien joué, Pierre. Évidemment, on attend la décision de l'UEFA concernant le fair play financier. Cette décision devrait arriver en début de semaine, mardi au plus tard. D'après les informations du JDD, le Paris Saint-Germain va voir ses transferts encadré cet été. On ne parle pas d'exclusion de la Ligue des Champions, mais d'encadrement des transferts pour rester dans les clous du fair play financier. Ça risque d'être compliqué, ce mercato du PSG, Bruno ?
Bah, effectivement, oui, ils vont pas pouvoir sans doute dépenser comme ils le souhaitaient, quoi, et remplacer, enfin en tout cas pourvoir les postes qu'ils souhaitent pourvoir. Après,
plus de l'ajustement,
parce qu'une fois que viser plus juste, du coup, ouais.
S'ils arrivent à faire partir deux trois joueurs à des belles sommes, ils pourront prendre, hein, après.
Tu penses à qui ? Non, mais par définition.
J'avais l'impression que beaucoup étaient vendables. Après, je connais la difficulté des salaires parisiens qui fait que c'est difficile de les prendre. Mais j'avais l'impression que rien n'était fermé pour Pastore, Verratti, Di Maria.
Mais aujourd'hui, Pastore,
Rabiot.
Si tu veux, il y a un élément, et souvent, je veux dire, en premier lieu, les médias méconnaissent un petit peu, ils pensent que à l'aspect transfert, ils pensent pas à l'aspect salaire.
Si, je viens de te dire, le salaire, je sais que c'est très compliqué.
Personne va lui donner l'équivalent.
Donc,
il faut composer et sans doute accepter un transfert à la baisse pour se débarrasser du salaire.
Ouais.
Donc, et il faut encore que le joueur ensuite derrière accepte un salaire à la baisse.
Les Argentins, ils sont pas connus pour faire des remises.
Il n'y a jamais de solde en Argentine.
Les Argentins, il y a un euro par terre, ils grattent le sol, ça. Les joueurs argentins, c'est impressionnant, quoi.
Ah non,
c'est des joueurs professionnels, mais donc ils sont là pour faire de l'argent. Et on va pas les critiquer pour ça, mais c'est normal. Donc le PSG, forcément, il y a plusieurs questions. Bon, je pense que le dossier de Buffon, il est plus que dans le tuyau, on va dire. Donc ça va aussi impacter un peu la situation des autres gardiens, que ça soit Raiola ou Trapp. Sans doute qu'il y a un des deux qui
Ah, je pense pas qu'Raiola va bien supporter le truc. Enfin, Raiola risque de lui monter un peu le bourrichon.
Raiola,
ça peut avoir un intérêt aussi. Hein.
Raiola, il a déjà une situation tout minot qui puisse être. Il a déjà une situation pas facile à gérer avec Donnarumma, puisqu'on lui a mis Reina dans les pattes. Et donc on va voir comment ça va se passer, parce qu'il n'y a pas l'empressement qu'on veut bien dire pour acheter Donnarumma. Donc
ouais,
il faut
ça,
arrêter, il y a un marketing tout autour de ça. Et
bon, Donnarumma n'est pas aujourd'hui Donnarumma. On l'a bien survendu.
Je crois qu'il n'y a pas aussi un petit problème d'image, ou en tout cas qui peut un peu faire peur au club, peut-être.
Ouais, bon, enfin, c'est toujours le problème. Quand tu prends un joueur avec Milo, il peut se passer des trucs.
C'est que tu prends un joueur de Raiola, t'es président de club, ça te saoule, quoi. Tu sais que le mec, tu vas l'avoir sur le palto, là.
Ouais, ça, et puis t'as le joueur
lui-même aussi. Il est saoulant comme mec, hein. Moi, je suis président de club, je réfléchis à deux fois, on traitait avec lui, hein.
Non, la seule chose.
Tous ces joueurs sont galériens, à part un ou deux mecs. Bon, il y a des exceptions, évidemment, mais souvent c'est.
Mais il a un talent exceptionnel pour te faire des deals, quoi. Donc, il fait des deals pour ses joueurs exceptionnels. Donc, là, il faudra être créatif, après.
Créatif.
Oui, non, mais tu sais, quand on dit créatif, ça veut dire trouver les bonnes idées, le bon endroit, le bon moment, quand le club ouvre la porte. Donc, bon,
mais
PSG,
il doit sans doute prendre un arrière-gauche.
Il pied dans la porte, il fait comme les vendeurs d'aspirateurs des années 70, hein. Ils te vendent l'aspirateur, les sachets, les produits, tout.
Ah, tout, c'est la vente additionnelle, ça, c'est. Mais bon.
Ils vont les gants avec.
Puis bon, là, au PSG, il y a Maxwell qui, éventuellement, peut écouter d'une oreille attentive. Et s'il y a des bons coups à faire, donc après bon, Milo n'a pas un top arrière gauche à nous proposer, pas forcément un arrière droit qui pourra épauler Meunier pendant les mois où Alves ne sera pas là, parce que je pense qu'ils vont devoir prendre, ça m'étonnerait qu'ils fassent confiance à Georgienne ou à un des jeunes du club pour faire la doublure de Meunier, quoi. Donc puis au milieu, bah il y a un grand chantier, quoi.
Ouais.
Ok, voilà pour les informations du Paris Saint-Germain. On attendra donc d'ici mardi les sanctions de l'UEFA, car il devrait y avoir des sanctions. Si l'OM, bien sûr que
sur l'OM, je crois que c'est assez simple. Ils veulent un milieu de terrain défensif qui puisse, le cas échéant, jouer un petit peu défenseur central, si le besoin s'en faisait sentir, un peu comme a fait Gustavo cette année. Et puis bon, bah, toujours un attaquant numéro 9, donc.
Mais ça semble être trouvé, ça.
Ça a l'air d'être pas trop mal enquillé avec Balotelli, ouais.
Ah oui, ça prend vraiment forme, cette affaire-là?
Apparemment.
Ouais?
Ouais. Et concernant l'Olympique de Marseille et ce justement grand attaquant et ce projet d'avoir un magnifique numéro 9, est-ce que on sent dans le milieu là du football que l'OM prospecte véritablement, ou alors ils se sont juste arrêtés sur Mario Balotelli?
Ah non, bon, mais ils travaillent. Il y a des gens qui travaillent au club. Je veux dire, Andoni Zubizarreta, il a une équipe en place. Après, c'est plus, il faut trouver cette espèce d'harmonie entre les idées et les choses faisables qu'a détecté le département sportif, et puis les volontés du coach. Et est-ce que le coach va valider? Compte tenu du fonctionnement aujourd'hui à l'OM, c'est Rudy qui valide.
Ok. Et il aurait déjà validé le profil de Mario Balotelli.
Ah bah, sans doute que s'ils approfondissent
comme ça. Il le connaît, il est en Ligue 1.
c'est vrai.
Quand il est en Ligue 1, c'est pas exotique.
Exactement. Donc on connaît parfois.
Hors frontières, c'est exotique.
D'autres choses sur le mercato, Bruno, à savoir?
Ah bah, il y a pas mal d'endroits où effectivement ça commence à bouger, mais ça serait difficile de vous faire un résumé.
Ce qui est fou, c'est l'entraîneur du Real. C'est que ce dossier soit.
Ils ont été pris de court.
Bah, ils ont été surpris, hein, comme nous.
Hein. Oui, mais c'est dingue qu'une institution comme le Real Madrid soit pris de court.
Et c'est parce vrai qu'ils en sont à parler de Michel qui pouvait faire ça. Ouais.
C'est vrai, ils en sont à parler de Michel. Michel, Guti, enfin bon. Mais en même temps, je veux dire, ou même Solari, ou enfin les noms qui ont été évoqués, peut-être à part Pochettino, qui avait publiquement dit que s'il y avait une possibilité, lui, il irait bien volontiers, quoi. Mais comme il vient de reprolonger à Tottenham, ça paraît difficile.
Comment ça se passe pour un entraîneur, les contrats qu'on dit il prolonge et tout, le mec il peut pas démissionner?
Il peut démissionner, mais il y a un dédit, quoi. Faudra racheter, faudra compenser. Et bon, le gars qui prolonge et qui est sous contrat pendant 4 ans, ça fait un chèque.
Oui, et puis il peut pas, il
relativement
peut
pas... conséquent pour se libérer.
Enfin, tu brises pas un CDD comme ça tout seul, quoi. Il faut que le club soit d'accord quand même.
Je pensais que pour les entraîneurs, c'était pas comme pour les joueurs.
Non, faut que ça dépend comment
c'est rédigé. Il y a des clauses aussi pour les coachs. On voit bien avec Sarri.
C'est une clause spécifique, quoi, qui te donne le droit là de quitter le club,
même si t'es encore
sous certaines conditions, mais
un an de contrat. Mais il y a des dates précises à respecter. Et donc, pour certains
championnats ou certains.
Voilà.
Pas partout non plus.
Par exemple, le gars qui est comme en Italie, disent OK, toi tu peux partir, moyennant temps, mais tu resteras pas en Italie, par exemple. Tu vas pas renforcer la concurrence, quoi.
Un mot sur Antoine Griezmann qui a de nouveau annoncé que son avenir allait être scellé avant le début de la Coupe du Monde chez nos confrères de Téléfoot. Ça commence samedi, donc ce sera sûrement cette semaine, mais je suis content, j'ai envie de faire une grosse Coupe du Monde et je me sens prêt. Oui, normalement, ce sera fixé avant la Coupe du Monde.
Moi, je parie qu'il reste à l'Atlético.
Donc, j'espère.
Il nous le dit, Bruno. Il reste affirmatif, il reste à l'Atlético.
Je pense qu'il reste à l'Atlético.
Ben voilà.
Et aussi, d'ailleurs, dans cette indication, car il dit oui, je veux que ça se passe cette semaine avant donc le début de la Coupe du Monde, on imagine mal un transfert retentissant à Barcelone, sachant qu'on voit comment ça s'est passé notamment pour Umtiti. Il a dû faire l'aller-retour pour aller prolonger son contrat et on imagine mal Antoine Griezmann partir cette semaine à Barcelone pour passer la visite médicale et signer son contrat.
Difficile à imaginer, en effet.
Voilà. Mais pas impossible.
Il vient de te dire, Atlético, cherche pas, il vient de te le dire.
Mais dans les faits, c'est impossible.
Ils ont le wifi, faut que ça turbine.
Un petit protocole.
Il y a les signatures électroniques.
Ah oui, attends, tu peux faire de partout maintenant, attention.
Bien sûr. Médecin.
Sauf que c'est un transfert d'Antoine Griezmann au FC Barcelone.
C'est ça, s'ils envoient un médecin, il va pas prendre le cas.
Dans la chambre 302 de l'hôtel de Sistra, là, dans le Pullman, je sais pas où ils sont.
Pierre Ducrot qui peut pas faire l'after parce qu'il a une gastro, le mec il signe et tout ça. Là, c'est un transfert incroyable. Donc.
Nicole.
Bon, ok.
Puis il n'a pas été validé par Eric Abidal qui vient de prendre des responsabilités. Voilà. Peut-être.
Exactement.
Il y avait du flottement au niveau du département direction sportive.
Donc l'after vous l'annonce. Si vous entendez des choses sur Antoine Griezmann, Bruno Satin vous dit Antoine Griezmann va rester. justement, malheureusement, Lionel Messi dans le quotidien catalan Sport a déclaré il y a quelques heures pour remporter de nouveau la Ligue des Champions, on doit avoir les meilleurs joueurs et Griezmann est l'un d'eux. Si le club peut le faire venir, je serai ravi.
Ouais, mais bon, c'est oublie ta phrase, c'est fini.
Il n'avait pas encore écouté l'after.
Ça veut dire que cette dépêche on annule?
Bah bien sûr, faut lui envoyer le podcast et vite fait, quoi.
Voilà. La vache, c'est dur quand même d'annuler comme ça des dépêches. Bon, voilà, en tout cas, c'est l'after. Antoine Griezmann va rester à l'Atlético Madrid. J'espère qu'il nous regarde dans sa chambre à Istra en Russie, qu'il nous écoute, Antoine Griezmann. On revient dans quelques instants avec Yacine qui va non pas nous parler que de Macroute, évidemment, parce que sinon ce serait véritablement un cliché. Non, il est éducateur, diplômé, formateur et entraîneur de jeunes joueurs. Et il a envie de passer un coup de gueule parce que ça va mal pour la formation de nos jeunes entraîneurs français. On se retrouve dans quelques instants et n'oubliez pas de nous appeler au 32-16. Il y a un quiz, ça va être incroyable. Hein. On est 4 là autour du plateau, il y a de la place, il y aura des auditeurs.
Ouais, le quiz, il va tuer
5
ce soir.
T-shirts de l'after à gagner. Franchement, c'est rare que l'on fasse gagner d'aussi beaux cadeaux. C'est au 32-16. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show. L'Afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
L'after, toujours avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec Bruno Satin et avec Yacine Amened. C'est pas mal, là, hein?
C'est bon.
J'ai bien dit, hein? Rebonsoir, Yacine, éducateur diplômé, formateur et entraîneur de jeunes joueurs. Tu viens avec nous pour nous dresser un constat alarmant sur la formation des entraîneurs français. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet dans quelques instants. Un ami de l'after, entraîneur au Congo, sera avec nous pour nous parler aussi et pour intervenir dans ce débat.
Il a suivi des cours cette année, d'ailleurs.
Ouais, on était ensemble
en gros à l'école, sur les bancs de la formation, quoi.
Ouais. Il s'appelle Julien Maître. Bah, d'ailleurs, il est là. On va le saluer. Salut Julien.
Salut tout le monde. Bonsoir.
Salut Julien.
Bonsoir. Julien Maître, entraîneur à l'AS Auto. Voilà, c'est la D1 congolaise. On arrive dans quelques instants, Julien. Juste, Yacine va poser les bases de ce débat. Tout d'abord, paraît-il que c'est difficile pour les entraîneurs français de passer leur diplôme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Alors, pour ceux qui n'ont pas été anciens professionnels, oui. Alors, je vais faire rapidement un retour. Les anciens diplômes. Il y avait le DEPF, le DEF et le brevet d'État. Ça, c'était les anciens diplômes. Il y a eu une réforme qui a été mise en place par la DTN et par le ministère. Et aujourd'hui, on a donc...
La DTN d'Hubert Fournier?
Non, celle d'avant.
Celle d'avant.
En fait, c'est entre les deux, mais ouais. Et donc, en fait, la réforme, elle a été mise avant. Elle est validée depuis cette année.
Mm-hmm.
Donc là, les nouveaux diplômes, c'est le BEPF. Il y a le DES. Il y a le BEF et le BMF.
Quatre étapes.
Il y a quatre étapes là maintenant au niveau national.
D'accord. Ça en fait une de plus à payer. Quand même.
Voilà. Et en fait le problème,
oui, parce que
le problème qui se passe,
oui,
c'est que alors déjà au niveau des statuts des championnats, avant pour entraîner en Ligue 1, Ligue 2, fallait le BEPF. À partir de la nationale, fallait le DEF. Comme il y avait trop d'entraîneurs avec le BEPF au chômage, on a enlevé la nationale pour les DEF et on a rajouté les BEPF. C'est-à-dire qu'on va trouver du travail à ceux qui ont la licence pro.
Ok.
Ça veut dire aussi que le DEF disparaît complètement. C'est-à-dire qu'il n'existe plus, on peut plus s'en servir. Ceux qui ont le DEF, on n'existe plus.
Ok, on l'a payé et maintenant ça
a disparu.
Ok.
Mais en fait, le problème, c'est pour des mecs comme toi, ou comme Julien, qui a envie de devenir entraîneur.
Pour avancer,
juste avoir une chance d'entraîner en Ligue 2, en national, en Ligue 2, et évidemment le rêve, dans l'élite. C'est un parcours qui est pas seulement difficile, mais tout simplement impossible.
Pas impossible, mais très fermé, à savoir qu'on privilégie les anciens joueurs pros pour entraîner chez les professionnels, parce qu'on considère que ils ont, eux, le vécu, etc., et que c'est... On oublie que c'est pas le même métier, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème pour nous, parce qu'en fait, faut savoir que pour aller donc du DEF, ancien DEF, du DES au BEPF, il faut avoir entraîné 5 ans en national, ou sinon... Donc pour les autres, faut avoir 150 matchs de Ligue 1, faut avoir 10 sélections en équipe de France, donc on voit bien que tout est fait.
Ah, il y a genre des atouts, quoi.
Il y a des prérequis.
Il y a des prérequis.
Ouais. Si t'as 10 sélections, tu peux aller au BEPF. Directement. Sans avoir entraîné. Enfin, tu passes tes diplômes, mais tu vas y aller, quoi. 10 sélections.
Mais en
150
fait,
matchs de Ligue 1 aussi.
On sait pas.
En équipe de France A.
Oui, oui.
Sauf qu'on sait pas si t'as les compétences
pour
entraîner.
Non, mais ça, mais on s'en fout, en fait. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des anciens pros qui ont eu des sections ou 150 matchs de Ligue 1 minimum.
On en revient tout le temps au même truc que j'évoque sans arrêt quand je dis que le système qui, au Portugal ou en Italie, a donné des Sarri, Mourinho, machin, c'est impossible chez nous.
C'est impossible.
C'est totalement fermé, ça.
Oui.
Ça bouge pas, parce que j'ai essayé d'en parler, moi, avec Hubert Fournier, que j'avais rencontré pour Transversal.
Le DTN.
Non, parce qu'en fait.
En fait, y a rien qui bouge,
ouais. Ce qui se passe, c'est que, pour aller au, le BEPF, il y a par exemple 20 places par an. Sauf qu'on va prendre 19 anciens pros. Nous, on s'en fout, en fait, que les anciens pros, ils passent, c'est normal, ils recyclent, c'est leur métier, y a pas de problème. Sauf que ça bloque des portes, enfin, ça ferme des portes pour les autres. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'anciens pros qui passent leur diplôme en se disant je le passe parce que j'ai le droit,
mais qui sont pas forcément motivés par faire le métier.
Exactement.
Ouais.
Donc en fait, ça non seulement ça ferme des portes aux autres, mais en plus il y en a plein qui ont les diplômes et qui s'en serviront jamais, et ils le savent d'avance, mais c'est juste au cas où ça leur donne une sécurité.
Une place au cas où à un moment il a besoin d'un taf et tout, voilà. Il a appelé en urgence dans un club.
Voilà. Il faut savoir aussi que le coût de la licence pro,
25 000 balles.
Non, c'est 35 000 euros.
35
000. En France.
Ah, il m'avait dit 25 000.
C'est 35 000.
Mais
c'est les nouveaux diplômes, c'est 35 000. Et par exemple en Angleterre, parce que on a eu la chance d'aller en Irlande le mois dernier, ça coûte 4 000 euros.
Quand t'as eu la chance d'aller en Irlande dans votre formation à l'UNICATEF, vous faites des voyages.
Ouais, on a été échangé avec les des
entraîneurs. Tu vas en Irlande pour 35 000 euros. Quoi.
Et donc, mais par contre, encore.
Quand tu payes le diplôme, oui, tu peux aller en Irlande.
Oui, mais attention, il y a un petit bémol quand même, parce que ce serait trop facile. Quand vous voulez passer le BEPF à l'étranger, il faut avoir l'accord de la DTN. Parce qu'en tant que Français, il faut avoir l'accord de la DTN.
C'est soumis à leur
accord. Donc, en fait, c'est impossible.
C'est ce système qui fait qu'aujourd'hui, tout semble sclérosé. Bon, Montagny a quitté... c'était quoi son poste exactement?
Responsable de la formation de cadre.
Voilà, donc c'était le responsable, celui qui...
Je vais même te le donner, le titre exact, parce que j'ai noté. Chargé de la coordination des sélections nationales, de la formation du BEPF et de l'exportation du système de formation français à l'étranger.
Ouais. Ok, donc lui, il n'est plus là.
Oui, mais il est resté qu'un an en plus.
On ne sait pas qui va prendre sa place.
Non, pour l'instant, non.
Donc déjà, le fait que le poste soit vacant, c'est un peu étonnant, parce que ça doit être un poste qui est, mine de rien, important quand même.
C'est important pour le futur de notre football. Ouais. Et c'est un poste qui est vacant, déjà on sait pas. Ouais. Mais on sait même aussi que Hubert Fournier, s'il a une bonne proposition, il partira aussi. Et ça fait qu'un an qu'ils
ne prennent pas ce rôle au sérieux. Non, mais
parce que la DTN, c'est pas qu'ils ne prennent pas au sérieux, c'est que c'est un rôle de transition. Voilà.
Non, mais ça devrait pas, parce qu'aujourd'hui, je te signale quand même que le cas de figure, par exemple, de clubs qui ne savent pas qui nommer, parce qu'il n'y a plus d'entraîneurs. Oui. C'est-à-dire, Nantes, aujourd'hui, Kita, il veut même plus en train de parler en rêve d'un entraîneur français. Il a été prendre un gars, mais j'ai rien contre lui, Cardozo, là.
Mais très bon, apparemment.
Mais je n'en doute pas une seconde, mais en tout cas, aujourd'hui, on a l'impression que le premier choix, c'est de dire surtout pas un français.
Mais justement, pourquoi? Parce qu'en fait, dans la formation, quand on passe notre formation, alors la formation, elle est pas pourrie, hein. Il y a des choses très intéressantes, il y a des choses qui sont très bien faites. Sauf qu'en fait, elle est, unique au niveau de la pensée. Voilà. Le football, il doit être pensé comme la DTN le pense. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que ça veut dire que si vous rencontrez un président qui veut faire évoluer son équipe différemment, il peut pas vous prendre puisque vous avez été formé et préparé pour faire un seul football, voilà. Et le problème,
c'est pas comme ça à l'étranger. T'as étudié comment ça se passait à l'étranger?
En fait, à l'étranger, c'est pratiquement des diplômes universitaires, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion. On vous demande de mettre en place des choses et de les expliquer ce qu'on aimerait.
Là, tous les entraîneurs sont tous dans le même moule.
Oui, parce qu'en fait, je vais donner un exemple concret qui parle de terrain. Le fameux 6, la sécurité. Voilà, ça si vous
la sentinelle.
Ouais, et puis ça sert de sécurité et le point d'équilibre. Ouais. Donc, si vous passez vos diplômes et qu'à un moment donné dans votre exercice, il y a plus ce point d'équilibre, on va vous dire hey, elle est où ta sécurité? Mais moi j'en veux pas. Moi je veux me déséquilibrer, j'ai pas de problème. Ah non, c'est impossible. Faut avoir
les équipes qui gagnent, ils jouent avec un numéro 10 bas quoi.
Donc ça t'as pas le droit de le faire si tu le fais. Voilà.
Donc Bielsa n'aurait jamais pu passer sur
le EPF. Et le problème c'est qu'en fait on est formaté, mais en plus le jour des épreuves et tous les éducateurs qui ont passé les diplômes vont vous le dire. En fait bêtement on fait un copier-coller de la séance. En fait on a aucune réflexion. On fait un copier-coller de la séance qu'on a pris dans la semaine et on répète bêtement pour avoir la moyenne et pour avoir notre diplôme.
Ok. Ben justement, Julien Mette est toujours avec nous. Il est parti au Congo pour entraîner. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et justement pourquoi tu en es venu à quitter la France?
Ben, tout comme Yacine l'a bien dit, j'ai pas été ancien joueur pro. Donc j'ai commencé à entraîner à 20 ans. J'ai entraîné des jeunes en fait dans ma ville, hein, comme le club où je jouais, quoi, donc en régional. Fallait un éducateur pour les jeunes, donc j'ai dit ok. Et puis donc là, le déclic m'est venu, et donc de 20 ans à 33 ans, j'ai entraîné quasiment toutes les équipes de jeunes. J'ai connu un peu le milieu pro à l'époque dans la région bordelaise, quand Libourne était en Ligue 2 et nationale. J'ai fait 4 saisons là-bas, donc voilà. Et ensuite, j'ai passé les diplômes, comme l'a dit Yacine, même si les noms ont changé, les diplômes fédéraux, le BE... Et après, il a parlé de la réforme aussi, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une harmonisation européenne. Donc, en fait, c'est des diplômes UEFA maintenant. Ils ont une dénomination française, BEF, BEPS, mais en fait, c'est UEFA-A, UEFA Pro, voilà. Et à 33 ans, donc quand tu te rends compte qu'effectivement, le fait que tu aies entraîné des jeunes, on s'en fout complètement. T'as pas été joueur pro, t'as pas eu 100 matchs au niveau national... t'es pas le cousin, le fils de machin, donc du coup, ce qu'on va te proposer, c'est d'entraîner en régional, et puis quand tu auras 45 ans, 50 ans, peut-être tu pourras entraîner en CFA 2, CFA, ou faire un parcours à la Pélissier, c'est-à-dire un truc de ouf qui arrive une fois sur 1000. Donc du coup, comme j'ai eu déjà une première mission au Congo, ça m'avait bien plu, la ferveur africaine qu'on connaît, qu'on retrouve pas dans les matchs de CFA en France, donc j'ai dit Lyon. Je vais partir là-bas et puis essayer de me faire un parcours, on va dire un petit peu à l'air Véronard, parce que c'est un peu un exemple pour des gars comme moi maintenant.
Oui, mais Julien, et si tu reviens en France, est-ce que, fort de cette expérience au Congo, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bien vu ou pas forcément?
Bon, déjà, est-ce que c'est bien vu? On va, alors, heureusement que
ça vaut le coup d'être tenté, Julien.
Gagne et que quand Hervé Renard parle, on l'écoute un petit peu, mais il y a toujours ce truc de l'Afrique, c'est de la merde. C'est-à-dire que là-bas, c'est super facile, alors que c'est dix fois plus dur. Du coup, non, c'est pas du tout valorisé.
Non, mais est-ce que ton diplôme sera reconnu? Est-ce que l'expérience que tu passes là-bas, ça va être reconnu?
Je précise un truc, c'est que quand on veut avoir des équivalents, voilà, quand on veut avoir des équivalents, l'expérience à l'étranger n'est pas prise en compte. Comme si à l'étranger, c'est... Non, pas à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, sûrement que le football, il est nul là-bas, on comprend rien au foot, c'est pas le même football, donc quand vous allez à l'étranger, vous revenez...
Tout à l'heure, quand ils font venir un joueur buts, ils sont plus grands. Voilà.
Vous avez une expérience à l'étranger, vous revenez avec, vous pouvez pas la valider.
Mais ce que vous voulez dire, Julien, excuse-moi, Julien.
C'est d'acquis d'expérience, vous montez un dossier, et donc c'est vu à l'étranger... Même si vous avez gagné la Ligue des Champions d'Asie, d'Afrique, ou vous avez une sélection nationale, vous dites, c'est de la merde, c'est l'étranger, ça compte pas.
Mais, Julien Yacine, si on essaie d'aller plus loin dans votre réflexion, les problèmes que vous mettez en avant là, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous êtes pessimiste quant à la formation de nos entraîneurs, vers quoi on va aller? Vous auriez envie de dire quoi? Il faut une révolution totale de notre système? Il faut arriver à quelque chose qui ressemble plus à ce qui se fait au Portugal, en Italie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait, Julien?
Qui est une ouverture vers d'autres profils. En fait, ce qui est un peu chiant, quand des gars comme Yacine ou moi, on parle de ça, on a l'impression qu'on est anti-ancien pro. Alors que non. Nous, on va apprendre des anciens pros, mais les anciens pros peuvent apprendre de nous aussi. On peut se compléter. Enfin, moi, j'ai un parcours universitaire, il y a d'autres. Comme vous le parlez, comme vous le dites très souvent, il y a les écoles, notamment au Portugal, où c'est là-bas, c'est des universitaires. Quand Jardim vous cite Edgar Morin, si vous citez Edgar Morin dans une formation d'entraîneur en France, vous êtes totalement mis. Vous allez aller au point. Hein, comme on...
Morin, ça me fait penser au bronzé, moi, plutôt.
Non, il y a pas un Morin dans les bronzés?
C'est Bernard Morin. Ouais.
Bernard Morin. Ouais.
Bernard Morin. Tu t'appelles Bernard Morin?
C'est écrit dessus sur Masking.
C'est ça, exactement. Non,
mais par exemple, vous voyez, si on veut parler de foot, moi, dans mes formations, je suis très Amérique du Sud. Ça m'est déjà arrivé je suis d'origine espagnole. Ça m'est déjà arrivé de parler de Jorge Sampaoli, de Ricardo Lavolpe, de Juan Malillo. Il y a personne qui connaît ça. Même vos formateurs SFF.
Si, moi je connais bien Juan Malillo, c'est un copain, donc.
C'est celui qui dessine les schémas offensifs pour Sampaoli à Séville et qui a été adjoint aussi de Guardiola, qui a été le plus jeune entraîneur de l'histoire de Pep en Espagne.
Qui lui faisait toutes ses pré-saisons.
Et donc vous citez ces mecs-là dans la formation que vous passez
Non, parce qu'en fait, on nous explique bien que, en gros, si on réussit pas, c'est pour d'autres problèmes, mais on a les meilleures formations, on a les meilleurs entraîneurs.
Ça c'est vrai, il y a une espèce de d'autosatisfaction, mais ils y croient. Mais effectivement, genre on est les meilleurs quoi.
Mais il y a une explication, c'est qu'en fait, on a été les meilleurs, faut le dire, puisque c'est quand même la France qui a mis en place beaucoup de choses
jusqu'à 2000
et puis après on est resté sur nos acquis pendant que les autres effectivement ils sont venus prendre des idées ici, mais ils ont pas juste copié, ils ont adapté, ils ont avancé. Nous on est resté, on était les meilleurs. Et du coup, on a perdu 20 ans. Aujourd'hui, on a perdu 20 ans.
Est-ce que c'est pour ça? On était les meilleurs. Il y a aucun entraîneur gagné
les meilleurs.
Ils passaient pas les frontières, nos entraîneurs. On n'entendait nulle part parler. On était les meilleurs.
Après, parce qu'il y a eu aussi, ils ont un peu tout englobé, c'est-à-dire qu'il y a la formation d'entraîneur, la formation des joueurs,
Ça
avait des conséquences sur les formations, etc.
Mais est-ce que vous croyez possible que ce soit décloisonné? Que vous voyez le bout du truc?
Moi, tant qu'en fait, à partir du moment où on voit bien avec la nomination de Hubert Fournier, comment elle est venue. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas a récupéré un peu tout ce qui est DTN et il a placé Hubert Fournier. Tant que ça se passera comme ça, mais évidemment qu'on s'en sortira pas, puisque un ancien pro, il va pas aller dans notre sens à nous.
L'impulsion devrait venir du président de la Fédé.
Mais je pense qu'aussi à un moment donné, il faut aussi que nous, les éducateurs, on se réveille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas accepter tout le temps. Là, je veux dire, on avait le DEF, il existe plus. Moi, je peux pas avoir passé 3, 4, 5 ans en formation et qu'on me dise ton diplôme il existe plus. Vous avez passé un master en communication. Il y a une révolution, une réforme, on vous dit votre master il sert plus à rien. Mais j'ai fait mes formations comme les autres. Alors vous trouvez un compromis, mais vous pouvez pas me dire qu'il n'existe plus.
Un équivalent. Mais tu sais quoi, moi, Julien et Yacine, je suis pas persuadé que les anciens pros qui se projettent dans ce métier soient opposés au fait d'ouvrir ça à des éducateurs comme vous, parce qu'on en a tous eu, nous, des éducateurs comme ça dans les clubs.
Le problème, c'est que quand ils rentrent dans le truc,
je pense que c'est plus l'institution, moi, qui.
Oui, mais quand ils rentrent dans le truc, en fait, ils se Je veux dire, ils se moulent avec les autres. Ça veut dire qu'on veut, on n'ose plus dire le contraire, on n'ose plus aller contre.
Ouais, bah c'est dommage. Alors parce que moi en tant qu'ancien pro, honnêtement, je verrais pas du tout d'un mauvais œil, et au contraire que tout ça soit mélangé. Parce je te répète, on a tous eu des coachs comme toi, comme Julien, qui n'ont pas été forcément des footballeurs pro avant, et avec qui on a tous eu avec un coach des relations comme ça très spéciales et qui nous ont appris plein de choses.
Dans les formations,
c'est des sacrées limites qu'on se met là.
Moi, à titre personnel, dans les formations d'entraîneurs, on est avec les anciens pros. Avec les anciens pros, c'est des types comme nous, il n'y a pas de problème. Ils ont la culture foot comme nous. C'est la manière dont on leur parle et la manière dont on nous parle à nous qui est complètement différente. Et eux-mêmes, certains fois, des anciens pros sont gênés. Moi,
je suis des anciens pros. Bien sûr, je suis persuadé que ça vient de l'institution, moi, pas des...
Je pense aussi qu'il y a une responsabilité.
Les formateurs SFF qui leur donnaient les réponses du prochain contrôle. Ah, et l'ancien pro vient te voir quand on est dans la vie sociale. On est ensemble, on mange, et il dit, putain, mais le formateur, il m'a donné les réponses du contrôle de demain, mais il m'a pris pour un débile ou quoi? Vous voyez? Donc, en fait, ils demandent même pas ça, en fait.
Bien sûr. Non, mais je pense que l'un des problèmes, effectivement, enfin, disons, pour la prédominance de proposer à des anciens professionnels, c'est la puissance et le lobbying effectué par l'UNFP qui veut proposer des voies de reconversion à un certain nombre de joueurs professionnels pour dire, vous avez vu, on favorise leur réinsertion, on leur propose une suite pour leur carrière. Donc, il y a des accords écrits ou pas écrits qui font que la prédominance ira toujours vers les anciens pros.
Bien sûr, mais on n'est pas obligé de créer une dualité.
Les anciens pros, ils veulent bien les mettre en entraîneur, mais ils veulent pas les mettre à la Fédé, parce que là, ils vont leur buter leur place, par contre. Parce qu'il y a d'autres pays, comme en Italie, où les anciens joueurs pros, ils deviennent, DPN, pas que, mais ils ont des hauts postes de responsabilité dans les Fédés. Là, par contre, les mecs de la Fédé, je sais pas s'ils sont trop d'accord avec ça.
Ouais, mais globalement, dans toutes les Fédés, globalement, au niveau des entraîneurs, c'est pas le haut niveau qui prédomine, hein. C'est pas très très, enfin dans tous les pays, ce que j'entends, que ça soit en Italie, en Espagne, malgré qu'ils aient des résultats extraordinaires, ou en Angleterre, c'est pas le haut du panier qui est en général dans leur DTN non plus.
Hein. Et dis-moi, l'ubiquité du système faisait que la situation d'entraîneur des Herbiers était complètement folle, non?
Ouais, bah oui, en fait, Massala, c'est incroyable.
Il était en national.
Il a pas permis de passer le diplôme.
Et donc, malgré sa position d'entraîneur en national et de le parcours en équipe de France, en Coupe de France, il s'est inscrit pour aller au BEPF. Et en fait, il a pas fait partie des candidats qui ont été retenus.
Donc, c'est terrible.
Voilà, il y a des présidents aujourd'hui au niveau national qui préfèrent payer. Pour dire à quel point on en est arrivé quand même. Ah ouais. Ils préfèrent payer des amendes. Ouais. Tous les matchs. Plutôt qu'aller chercher un BEPF dont ils savent qu'il va rien leur apporter. Je préfère payer 1 500 € par match. Voilà. Mais quand on en arrive là, il faut quand même se poser les questions.
Ouais, mais ça a toujours existé, le prête-nom, hein.
Avoir oui, mais maintenant c'est plus compliqué, mais il y a carrément
c'est plus cher, surtout.
Voilà. Ils préfèrent payer.
Je précise que c'est ubuesque, hein, parce que l'ubiquité n'a rien à voir là-dedans. Enfin,
Par contre, le fait de,
pour des gens qui ont des compétences avérées, même s'ils n'ont pas entraîné le plus haut niveau en France, un petit peu comme notre ami au Congo, il faut, pour ceux qui ont quelques capacités linguistiques, parce que moi j'ai souvent des entraîneurs qui aimeraient bien aller à l'étranger, alors je dis mais tu parles anglais? Ah bah ouais, bah je me débrouille, tu sais, c'est la fameuse formule passe-partout, je me débrouille.
Ça c'est un problème franco-français aussi.
C'est franco-français.
Je plein de choses. Les entraîneurs étrangers ils parlent tous anglais.
Mais... Donc si tu veux, le mec qui veut passer la frontière, il y a du boulot à l'étranger. La France, on a plutôt une relativement bonne cote au niveau des techniciens quand même, notamment en Afrique, il y en a un paquet qu'on bien réussi. Il y a des mecs qui sont pas trop connus, des troussiers ou des véludes. Des mecs ont gagné beaucoup de choses et qui se retrouvent pas forcément avec des bons jobs et pas de propositions en France.
Timo nous appelle au 32-16, supporter de l'Allemagne. Il habite Strasbourg, juste à côté. Et justement, Timo, bonsoir. Tu veux nous parler de la formation des entraîneurs à l'allemande?
Oui, bonsoir l'after.
Bonsoir.
Moi, par rapport à ce sujet, je pense qu'il faut prendre exemple sur l'Allemagne et la Bundesliga, où les clubs n'hésitent pas à faire confiance à des jeunes entraîneurs qui n'ont pas été professionnels, des intellectuels qui lisent, s'instruisent beaucoup en psychologie, des vrais génies tactiques aussi. Forcément, on pense à Nagelsmann. Alors écoutez bien leur parcours parce que c'est assez fou. Donc Nagelsmann, 30 ans, qui reprend Hoffenheim, relégable il y a 2 saisons. Et il finit 4e avec eux. Puis cette saison, 3e, donc devant Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Et donc on peut aussi penser à Tedesco, donc qui a fini 2e avec Schalke cette saison. Entraîneur U19 à Hoffenheim, à 32 ans. Puis il part à Aue en Détroit et les maintient. Et cette année, Schalke a décidé de parier sur lui et il finit deuxième avec Schalke. Donc c'est quand même assez incroyable. Et Nagelsmann encore davantage parce que je pense qu'il y a encore beaucoup plus de jeux. Et que de finir quatrième puis troisième avec Hoffenheim, c'est quand même assez dingue.
Eh bien merci.
Ils n'ont pas joué. Hein. Faut préciser qu'ils n'ont pas joué à haut niveau.
Ouais. Ils n'ont pas joué professionnels tous les deux.
Oui, c'est ce qu'on disait en tout cas. Merci beaucoup Timo d'avoir composé le 32-16 et d'avoir fait avancer le débat.
En fait, l'erreur, elle est de toujours vouloir diviser. En fait, faudrait un système où tout le monde a la même chance, quoi. Que tu sois ancien pro ou pas.
Il y a déjà que médiatiquement.
Oui, voilà. Déjà que médiatiquement, ça t'offre un avantage de l'être pro ou de l'avoir été.
Donc après, autant partir au niveau du diplôme sur un même pied d'égalité. Mais là, on est peut-être et nous sommes peut-être des doux rêveurs. Yacine, pour clore ce débat, et Julien, ce serait quoi le mot de la fin et les espoirs que l'on pourrait avoir?
Moi, les espoirs, c'est qu'à la DTN, on se réveille. Et que les éducateurs aussi se bougent un peu parce que c'est vrai que c'est facile de parler et puis de rien faire. Parce que finalement, on est tous un peu pareil. C'est-à-dire que quand on a un poste, eh ben, on oublie un peu ce moment-là. Puis c'est quand on est en difficulté qu'on se réveille. Alors, moi, un peu moins, pas parce que je suis différent, mais Daniel, il avait collaboré avec nous sur un livre. Pourquoi le foot français va dans le mur, on parlait de ça justement. Ça fait plusieurs années que je le dis, qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion et une vraie révolution sur qui doit mettre en place les diplômes, comment on réfléchit à la suite de notre football.
Moi je pense qu'il faudrait, parce que c'est un boulot qui est très administratif, ah, DTN.
En plus c'est des hommes de dossier.
Donc il faudrait quelqu'un qui s'occupe de la partie administrative et de l'organisation. Et puis il faudrait quelqu'un qui réfléchisse à la technique, à la tactique. Je veux dire, bon, on va dire c'est facile, mais c'était un Reynal de Nouex, tu vois, pour un poste comme ça, par exemple. C'est-à-dire un mec qui a fait ses preuves, qui a des idées.
De Nouex, c'était l'homme parfait.
Voilà, mais un mec qui réfléchisse au jeu, tu vois. Alors que bon, Blacard, il était peut-être très bon pour organiser les dossiers, les réunions avec la Fédé.
Bien sûr.
C'est compliqué. Mais il nous faut des mecs de terrain pour parler ballon, quoi.
Mais c'est la formation des entraîneurs, ils vont peut-être récupérer Domenech, vu que Montagnier est parti.
Je sais pas.
Non, mais c'est fou.
Non, mais la libération n'est pas longtemps.
Bah, tous en même temps, s'il vous plaît. Le mot de la fin, Julien, et puis après, on te laissera tranquille. Julien, vas-y.
Ouais, ben moi, je voulais parler d'un truc dont on n'a pas assez parlé, mais je sais qu'Yassine aime beaucoup ça aussi. C'est le football des jeunes. En fait, c'est très, très négligé d'être passé par les jeunes pour devenir footballeur professionnel. On a parlé de Nagelsmann, de Tedesco, mais la finale de la Ligue des Champions, Zidane, il est passé par les jeunes. Klopp, il est passé par les jeunes. Vous avez parmi les favoris de la Coupe du Monde, l'Espagne, Lopetegui, il est passé par les jeunes. Joachim Löw avec l'Allemagne, il est passé par les jeunes. On peut aussi dire Guardiola, Mourinho, etc. Et avoir entraîné les jeunes, c'est totalement négligé, puisque ça va même presque constituer une barrière si vous allez au diplôme pro. Or ça, je trouve ça dommage, parce que justement, d'avoir entraîné les jeunes, ça vous permet d'avoir essayé et tenté beaucoup de choses, que ce soit les schémas tactiques. Moi, j'ai fait quasiment tous les schémas possibles avec les jeunes, en plus de leur enseigner le football, mais aussi le management, les préparations de match. Et une fois que vous arrivez et que vous sentez prêt pour entraîner les seniors, toutes les conneries, entre guillemets, même si vous en ferez plein d'autres après, vous les avez faites déjà. Or, moi, j'ai aujourd'hui beaucoup d'amis qui veulent commencer à être entraîneurs. Ils veulent commencer par les seniors tout de suite. Les mecs, ils ont compris, ils sont pas cons. C'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a la reconnaissance. Et que tu passes chez les jeunes, c'est les jeunes parce que t'es pas assez bon pour aller entraîner les seniors.
C'est là aussi où t'as plein de joueurs en poste de formation et très jeunes aussi à gérer. Là-haut, ça peut te servir aussi.
Merci beaucoup, Julien. On t'embrasse. À bientôt dans l'after. Et puis, sache que tu peux aller déposer ton CV au Real. Ils cherchent toujours quelqu'un. On sait jamais.
Ouais, en tout cas, t'es d'origine espagnole, donc.
Bon vent à toi, en tout cas. Merci, Julien. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de l'after. Merci, Yacine. Tu restes avec nous. Non pas que tes gâteaux, on veut les mettre de côté. Non, tu restes avec nous parce qu'il y a le quiz dans quelques instants.
Avec plaisir.
Appelez-nous au 3216, 5 t-shirts de l'after à gagner. Qui va gagner? La réponse dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show. L'after foot, Jean-Christophe Drouet.
Reste encore quelques minutes pour l'after, pour se régaler avec un quiz. D'ailleurs, nous accueillons tout de suite Karim et Dogan qui vont participer à ce quiz. Salut les mecs.
Bonsoir les gars.
Alors, Dogan, j'ai l'impression que tu as joué au quiz il n'y a pas si longtemps, je faisais déjà l'émission. Donc c'est toi qui vas quasiment pouvoir choisir, en tout cas ça va se décider maintenant. Tu nous écoutes à la radio, Dogan?
Non, j'ai BFM Sport. Là,
alors ça va pas marcher. Karim, tu nous écoutes à la radio?
Ah oui.
Oui, j'ai combien de doigts?
Zéro.
Ah non, j'en ai un. Dogan, tu peux donc choisir ton équipe. Soit tu es dans l'équipe de Pierre et Bruno, soit dans celle de Yacine et Daniel.
Bah écoute, je reste sur une défaite, alors je vais prendre Riolo.
Ok, tu es donc avec Daniel et Yacine. Dogan, Bruno et Pierre, ça te va?
C'est grave.
Bon, t'as pas le choix surtout donc.
C'est parfait. Alors.
Ça va.
Sachez, amis auditeurs, que vous allez pouvoir venir en soutien de votre équipe parce que sinon vous avez internet devant les yeux et ce serait un peu trop simple. Nous allons jouer aux enchères.
Ah, les enchères.
Les enchères de la Coupe du Monde, c'est-à-dire que je vais vous donner un thème et vous me dites dans chaque équipe combien vous pouvez m'en donner. Ok ?
Oh putain.
Allez.
8 joueurs ont remporté à la fois la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or.
Attends.
8 joueurs ont déjà remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Combien vous pouvez m'en citer, l'équipe Bruno et Pierre, sur les 8?
Il y en a 8?
2. Oh, moi j'en ai
1. Non, dans leur carrière, pas la même année.
Dans leur carrière. Combien? Allez, on se dépêche. Daniel et Yacine.
C'est beaucoup.
1.
Vous pouvez en citer 1?
2.
2. Ok. Daniel et Yacine, est-ce que vous pouvez en citer 3?
Je vais réfléchir en dur.
2.
Bah 2 c'est déjà pris.
Ah 2 c'est déjà pris. On a 3.
Vous pouvez en citer 3 ou pas? Vous laissez ou pas?
Attends, 2 secondes.
3 secondes.
Ils ont combien eux?
2. 8 joueurs qui ont remporté à la fois la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or.
On va perdre, j'arrive pas à trouver un troisième. Merde.
Karim, est-ce que t'en as 3 pour aider ton équipe?
Ouais.
Tu dis 3, Karim?
Ouais, je vais dire
3.
Oui.
Ah bah tu compléteras le nom qu'on a. Alors on a 3 nous alors.
Ok, 3. Tu pourras en donner qu'un évidemment parce que tu peux, tu viens en appui, tu peux t'aider d'internet. 3. Est-ce que vous en avez d'autres? Pierre, Bruno, Dogan, est-ce que vous pouvez en citer 4? Ou vous laissez 3?
3, non, 2 plutôt. Attends.
Pierre. Pierre et Bruno, c'est de la radio.
4, 4 déjà.
4? Vous en citez 4? Ok. Est-ce que vous pouvez dire 5 ou vous laissez?
Bon, vas-y, 4, allez.
On laisse à 4. Pierre, Bruno et Dogan. C'est à vous. Pierre, tu donnes les noms?
Zidane.
Ouais. Zidane, c'est Ronaldo. Une bonne réponse. Ronaldo.
Non. Pas de Ligue des Champions pour Ronaldo.
Ronaldo, d'où?
Ronaldo, c'est une mauvaise réponse.
On a fait une erreur. Matheus, Cannavaro.
Cannavaro, c'est pas bon.
Avec qui? Avec le Real?
Non, c'est pas bon.
En
fait, et Matteo, c'était pas bon non plus. Vous aviez que Zidane.
Donc nous, on avait Beckenbauer, Zidane et le troisième de Karim.
Le Karim, tu avais qui?
Ronaldinho,
c'était une bonne réponse. Il y avait Kaka, Rivaldo, Paolo Rossi, Gerd Müller, Franz Beckenbauer et Bobby Charlton. Ok, ça fait donc un point pour l'équipe Yacine, David et Karim. Autre jeu pour les enchères. Combien de Brésiliens pouvez-vous me citer parmi les 11 meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection?
Bon, on les a eu tout à l'heure déjà un peu.
J'en ai 4 moi. Regardez.
Daniel
4.
4, ok, vous commencez à 4. Bruno et Pierre, vous annoncez 5 ou pas?
5.
5. Daniel et Yacine
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vous annoncez 6 sur les 11. Les meilleurs buteurs de la sélection brésilienne. Pierre et Bruno, est-ce que vous annoncez 7?
Alors, vous êtes là?
Ouais.
Est-ce que vous annoncez 7?
Combien
vous laissez?
Sur les 10?
Sur les 11. Vous laissez ou pas? 3, 2, 1. Vous allez laisser. 7?
On dirait que c'est 7.
On dirait que c'est 7.
Vas-y, on vous laisse. Bruno, le 7, il l'a pris dans la tronche. Il voulait pas le 7.
J'ai entendu, mais je crois pas.
Allez,
7.
Je vais donner les 6 premiers doucement.
Vas-y, Pelé. Pelé, c'est une bonne réponse. 77 buts.
Neymar
en 3e et 4e position. 55 buts, c'est bon.
Ronaldinho.
Ronaldinho, il est en 9e position, 33 buts, c'est bon.
Zico,
5e position, 48 buts, c'est bon.
Ronaldo,
2e position, 62 buts, c'est bon.
Romario,
55 buts, égalité avec Neymar, c'est bon, il m'en manque un.
Bebeto,
6e, c'est une bonne réponse.
Il est là.
Ah, 39 buts. Bravo. Il y avait Rivaldo avec 34 buts. Gersinho.
Et après, c'était plus dur.
Il y avait Ademir. Ademir avec 32 buts. Ça fait un partout. On va départager sur cette question. Ok. Sur les 10 dernières Coupes du Monde.
Les 10 dernières.
Combien de joueurs qui ont terminé meilleur buteur, vous pouvez me citer? Il y en a 14 au total, sachant qu'il y a eu des co-meilleurs buteurs. Ok?
10, ça remonte à quand?
10, ça remonte à 78, je crois, si je ne me trompe pas. Ça remonte à 78. Il y a 14 meilleurs buteurs de la Coupe du Monde et parfois il y a eu des co-meilleurs buteurs. Ok. Donc les enchères peuvent monter jusqu'à 14. On commence un partout avec l'équipe de Daniel et Yacine. 5 pour vous. Enchère haute déjà.
6.
6 pour Pierre et Bruno. Yacine et Daniel.
7.
7.
Donne-moi des
années. 7. Pierre. Et Bruno, est-ce qu'on laisse tomber à 7? Est-ce qu'on lance un 8 ou pas? 3, 2, 1. Vous n'annoncez pas 8, ça va donc être à Yacine et à...
7.
C'est à vous,
okay.
D'en annoncer 7, sachant qu'il y a Karim en soutien pour un an.
Ouais,
Karim, toi, tu nous écoutes et tu compléteras, ok? Donc on va faire Paolo Rossi en 82.
Paolo Rossi avec 6 buts en 82, c'est bon.
D'avoir Schuker.
D'abord Schuker en 98 avec 6 buts, c'est bon.
Stoïkov.
En 94, ouais. C'est une bonne réponse.
Ronaldo
en 2002 avec 8 buts, c'est bon.
Schillaci en 90.
Schillaci, Toto Schillaci avec 6 buts en 90, c'est bon.
On doit avoir Klose.
Klose. T'es sûr? C'est la gagne qui joue maintenant. Miroslav Klose 2006, en 2006 avec 5 buts, c'est une bonne réponse.
Arrête de faire flipper.
Après, il m'en faut encore un.
J'en ai un, moi, je crois. Vas-y.
T'en es sûr et certain?
Attention, faut pas se tromper. Hein. Vas-y, Karim.
Je crois que ça va être un co-buteur, je crois. C'est pas Salenko, la Russie?
Bah, attends, on va prendre plutôt Gartner.
Salenko?
Ouais.
Oui,
en 94 avec Christo Stoikov, c'est une bonne réponse. Ouais,
sinon,
bravo,
on avait Gerd
Müller,
sinon glissé au
cas où. Non, il n'y avait pas Gerd Müller, mais pourquoi vous m'avez pas donné les derniers? Rames Rodriguez en 2014.
Oui, bah les récents, on s'en souvient pas bien.
Et en 2010, vous savez, il y avait une pléiade de joueurs. Il y a Thomas Müller, David Villa, Wesley Schneider et Diego Forlán avec 5 buts.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Merci beaucoup, Karim. Tu as gagné les 5 t-shirts. Tu vas pouvoir faire un five ou ne pas aller au pressing. Voilà, c'est génial, c'est l'after. Et nous, on se retrouve demain à partir de 22h, évidemment. On vous embrasse, passez une très belle nuit. Salut
les amis.
Ciao.
RMC, le super football show, l'After Foot.